tous les dimanches de l'été sur Europe 1.
10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Tout cet été, chaque dimanche, pendant environ une heure, je vous propose un grand entretien pour prendre le temps de traiter des grands thèmes qui ont rythmé l'actualité de ces derniers mois. Politique, relations internationales, énergie, santé, sport. Nous parlerons de tous ces enjeux et des conséquences qu'ils ont dans notre quotidien. Aujourd'hui, je reçois Catherine Ney, figure du journalisme politique qui nous raconte l'histoire des grands fauves de la Ve République. Catherine Ney, toi qui racontes à merveille les coulisses de la vie politique, toi qui as dressé les portraits de tant de personnalités politiques et de leur histoire parfois tumultueuse, pourquoi as-tu éprouvé le besoin de te raconter à travers deux livres de mémoire qui ont été de grands succès de librairie, le premier Souvenir, l'année dernière, et tu le sais bien, le temps passe cette année. Alors, Catherine, raconte.
Ben, c'est vrai, mais souvent, lorsque je rencontrais des confrères, des amis, je racontais des anecdotes, on me disait « tu devrais les raconter » parce que tout n'était pas dans les livres que j'avais fait. Bon. Et puis un jour, les choses se sont enchaînées parce qu'on m'a demandé « pourquoi avez-vous choisi d'être journaliste ?» Et j'ai raconté une anecdote qui est vraie, c'est comment, alors que je voyageais avec ma mère et mes frères par le train, au milieu des années, en fait je devais avoir 13 ans à peu près, et j'ai vu dans le couloir une femme, une jeune femme qui s'accoudait à la barre pour fumer, qui baissait la vitre et qui était indifférente au va-et-vient des voyageurs dans les couloirs. Et je voyais une femme qui maîtrisait sa vie, qui était libre, qui avait l'air d'une... Il y avait une plénitude de quelqu'un qui avait l'air de réaliser sa vie et qui savait où elle allait. Et je me suis dit, pour être libre comme ça, elle doit être journaliste. Et j'ai dit à ma mère, je veux être journaliste. Et je devais avoir 13 ans. Alors, pour faire bien, je pourrais dire que j'avais un message à délivrer, une envie de défendre une cause, absolument pas. J'aurais pu dire que ma grand-mère, qui était féministe, parce qu'elle voulait que les femmes aient le droit de vote, et ça, c'était un de ses grands combats. Elle avait été écouter Louise Weiss, vous savez, cette grande journaliste européenne et qui était une suffragette. Elle avait été l'écouter à Tours et ça l'avait beaucoup impressionnée. Mais c'est absolument pas pour ça. C'est ce besoin de liberté que j'avais de me réaliser en gagnant ma vie et en étant libre. Voilà.
C'était aussi par rapport à ta mère?
C'était par rapport à ma mère. C'était pas du tout pour fuir ma famille dans lequel je me sentais très bien. C'était un cocon chaleureux. Mais ma mère, dont le père était mort pendant la guerre de 14 et qui avait été orpheline à 9 ans, avait été, une fois son brevet passé à Tours chez les bonnes sœurs, sa mère l'avait rapatriée à Richelieu où elle avait repris l'entreprise de son mari décédé. Et donc elle n'avait pas fait ce qu'elle voulait. Or elle avait un rêve. Elle aurait aimé être pianiste de concerts et voyager. Voilà, elle jouait très très bien. Mais elle est restée une pianiste qui est restée à Richelieu avec des cours. Elle allait jusqu'à Tours quelquefois pour avoir des cours de piano. Mais évidemment, elle n'a pas pu travailler avec des grands maîtres, ce qu'elle aurait aimé. Donc, elle voulait que ses enfants réalisent leur rêve. Donc, elle ne m'a jamais empêchée d'aller à Paris. Et moi, je lui ai dit, je veux être journaliste. Elle m'a dit, bien, tu seras, si tu veux être journaliste, ben vas-y, tente ta chance.
Alors, tu as commencé ta carrière dans le journalisme à l'Express,
oui,
auprès du couple mythique formé par Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Qu'est-ce que tu as appris d'eux dans l'exercice de la profession?
Mais d'abord, je voulais être journaliste. Vous savez, il n'y avait pas, à l'époque, quand je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas énormément de choix dans la presse. Il y avait la presse quotidienne, c'était des journaux, Le Figaro, L'Aurore, François, Le Monde. Mais ce n'était pas très attrayant, d'abord, parce que le papier en salissait les mains. Et au moment où j'arrivais à Paris, mais venait de sortir, depuis 2 ou 3 ans, un magazine qui me fascinait, qui était L'Express. D'ailleurs, quand j'allais voir mes parents en dehors Dordogne, dans le train, je voyais que tout le monde lisait l'Express. C'était un très beau... C'était le premier du genre, l'Express. C'était à la fois un condensé, ce qu'on appelle un news magazine, avec des photos, un papier glacé, et un condensé de la vie à la fois politique, de politique économique, sociale, des faits de société. Tout était complet. On avait une vision complète de la vie du moment, et je trouvais ça très attractif. Et évidemment, il y avait ce couple qui était mythique, qui était un couple moteur, Françoise Giroud et Gigi SS, qui étaient les patrons. Et moi, je n'avais qu'une idée, c'était entrer à l'Express. Et je m'étais dit, je ferais n'importe quoi pour y faire un stage, et une fois que j'y serai, j'en repartirai pas. Oui. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Je ne veux pas développer toutes les péripéties, parce que je n'ai pas été prise tout de suite, mais j'ai fait un stage, et puis je suis revenue au bout d'un an, et j'ai été engagée par Gigi SS, qu'il voulait, et c'était pas Françoise, hein, qui voulait qu'il y ait des femmes. Parce que pour un news magazine comme le sien, c'était la première fois que dans des papiers qui étaient courts, on mettait de la patte humaine. On décrivait les hommes politiques, on les faisait parler. Tout d'un coup, ça n'était plus seulement des idées, c'était une politique incarnée. Et il pensait que les femmes avaient quelquefois plus de sensibilité, de malignité, d'intelligence pour faire parler des hommes. Enfin, et surtout qu'à l'époque, c'était une profession qui était quand même très masculine. Et j'ai eu de la chance, parce que je peux dire que mes études journalistiques, je les ai faites à l'Express. Tous les lundis matins, j'avais la chance d'être dans le bureau à l'époque de Jean Ferniaud, puis après de Claude Imbert, où tous les chefs de service venaient, Françoise arrivait, que fait-on dans le prochain journal, et chacun devait dire ce qu'il entendait faire, le sujet traité, elle les poussait dans leur retranchement pour qu'ils s'expliquent mieux, pour que... Et donc c'était à la fois, moi j'avais toutes les semaines un cours d'économie, de politique étrangère, c'est une école extraordinairement formatrice pour parce que moi je connaissais rien, il faut bien dire.
Ça te sert encore tout ça?
Mais Françoise, en tous les cas, elle disait que il faut d'abord, dans un journal où les papiers sont courts, fallait soigner la première phrase. Voilà. Pour dire une attaque. Parce qu'il dit à quoi ça sert d'avoir du talent à la quatrième phrase si le lecteur est déjà perdu, parti. Bon. Et puis, il fallait soigner la chute. Voilà. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui, il disait qu'il fallait prendre de la hauteur par rapport à l'événement. C'est-à-dire qu'il fallait tirer d'un événement une idée générale. À portée un peu universelle. Alors ça, on n'y arrivait pas à chaque fois. Bon. Mais il y avait quand même... Et puis, c'était un style de l'Express, enjoué, qui moi, me fascinait. Mais François Giroud, qui faisait toutes les semaines, comme on disait, sa chandelle, son édito, vous voyez, c'était une petite colonne qui avait l'air de rien du tout. Mais moi, je savais qu'elle y passait une journée entière et que le jour où elle écrivait, qui était en général le mercredi, fallait pas faire de bruit dans les couloirs, on entendait, elle tapait elle-même à la machine sur son Olivetti avec chariot, on entendait clac le chariot, et on savait qu'elle avait recommencé 3 ou 4 fois son papier tant qu'elle n'avait pas l'attaque, ça ne partait pas. Mais surtout, c'était une femme qui avait un pouvoir d'éditorialiste, maintenant qu'il y a pléthore d'éditorialistes, aucun n'avait le pouvoir qu'elle avait alors. Je me souviens, le journal sortait le lundi matin, et le lundi matin, quand j'allais à l'Assemblée nationale, on voyait les députés qui se précipitaient au kiosque à l'intérieur de l'édifice où il y avait une librairie, enfin, on vendait des journaux pour lire l'Express et pour savoir qui serait épinglé par elle. Et ceux qui étaient épinglés étaient malheureux, mais les plus malheureux étaient ceux dont elle ne parlait jamais, qui étaient légion quand même.
Tu restais combien de temps à l'Express?
Je suis restée 7 ans.
Tu n'as pas fait beaucoup de maisons dans le métier.
Non, parce que... Non, mais à un moment, je suis partie de l'Express parce que Jean-Jacques faisait de la politique. Faute d'avoir Mendès au pouvoir, il a été séduit par Giscard, qui était un ami d'enfance. Et il était ministre de la Réforme. Et puis, au bout de 9 jours, il a démissionné. Il a dû démissionner. D'ailleurs, c'est Chirac, le Premier ministre, qui l'a forcé parce qu'il s'était opposé aux essais nucléaires qui devaient reprendre dans le Pacifique. D'ailleurs, il avait sans doute raison à l'époque déjà. Mais bon, il fallait. Et c'est Françoise qui lui a succédé. Et dès lors qu'il y avait nos deux patrons qui quittaient le journal pour faire de la politique...
Mais tu es parti.
Moi, je suis parti.
Ben, on va prendre cette occasion pour tourner une page et puis de repartir sur quelque chose que j'ai trouvé assez drôle quand tu dis que tu préférais assisté à la sortie du Conseil des ministres qu'à un concert de Johnny Hallyday. Voilà, dans quelques instants.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Catherine Ney, grande voix d'Europe 1. L'observation de la vie politique, c'est le fil rouge de ta vie de journaliste. Et tu dis avec drôlerie, je le rappelais il y a quelques instants, que tu préférais assister à la sortie du Conseil des ministres qu'à un concert de Johnny Hallyday et que tu étais impressionné par la figure de Roger Frey, le ministre de l'Intérieur du général de Gaulle. Ça me fait rire, parce que je le connaissais moi aussi. Oui, oui. Et c'était quand même, il était aussi gai qu'une porte de prison. Alors, à quoi tu attribues cette fascination pour l'univers politique et ses grandes figures? Parce que Roger Frey était une des grandes figures.
Oui, non mais d'abord parce que chez moi, dans ma famille, la politique n'était absolument pas un sujet de tension. Et à la fois, mon père, ma mère, ma grand-mère étaient tous gaullistes. Alors, ce n'était pas militant ni inconditionnel. Et l'évolution des positions de Gaulle sur l'Algérie ont quand même beaucoup fait souffrir mon père. Mais après, il voulait bien se résoudre à la solution et disant qu'il n'y en avait pas d'autre. Mais ça a été dur à lui arracher quand même. Vous voyez ça, bon. La façon dont mon père parlait de Gaulle, c'est-à-dire l'homme du 18 juin, qui avait, il était à la fois admiratif, reconnaissant et quand même, son exploit d'aller à Londres, de résister, de sauver l'honneur. Puis montrer, moi ça me disait que dans le fond, ça me donnait l'idée que des hommes, lorsqu'ils ont du caractère, un projet, du courage, ils peuvent faire beaucoup pour le pays. Et donc ça me donnait une vision optimiste de la politique. C'est-à-dire que je croyais que ces gens qui avaient fait la guerre, tous, qui avaient résisté, pour moi, c'était des héros. Alors, quand je dis Johnny Hallyday, pour moi, Johnny Hallyday, quand j'étais jeune, c'était un braillard. Je l'ai découvert que beaucoup plus tard, moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, j'étais en fac de droit, le mercredi, j'allais regarder la sortie du Conseil des ministres, parce que je trouvais toutes ces déesses noires, il n'y avait que des déesses noires, et puis j'essayais de voir à travers, j'ai vu Malraux une fois, là, j'étais toute, et puis j'ai aperçu, vrai, je m'en souviens plus. Et donc, pour moi, c'était l'homme qui était là pendant l'OAS, mais surtout, j'avais l'impression que c'était une montagne de secrets, qu'il savait des choses, et puis, il avait ce regard translucide. Et je me disais, si un jour je deviens journaliste, c'est vraiment un homme auquel j'oserais pas parler. Et puis, un jour que j'étais dans le train, le Capitole, pour aller voir mes parents, j'étais dans les couloirs et je vois quoi? Lui, tout seul, sans garde
Roger
du corps,
Frey.
Roger Frey. Parce qu'il avait, j'ai su après qu'il avait une maison dans le Lot où il allait.
Et qu'est-ce qu'il faisait?
Eh bien, il était perdu dans le vague. Et puis tout d'un coup, je repassais, j'avais les genoux qui s'entrechoquaient, je voyais mon idole. Et puis je vois qu'il sort de sa serviette un petit paquet, voilà. Puis je repasse et c'était des petits beurres, des petits lus avec un carré de chocolat. Donc, je peux dire que je me suis dit, bon, s'il craque pour des choses sur lesquelles, voilà, j'ai le péché
pour
les petits beurres, il est abordable. Oui.
Voilà.
Donc je me suis dit, je pourrais un jour aborder ces gens-là.
Et tu l'as abordé?
Oui, mais surtout, il s'est trouvé après qu'étant un ami d'Albin. Oui, je l'ai.
Albin Chalandon.
Albin Chalandon, mon compagnon et mari.
Est-ce que tu crois que encore aujourd'hui, les hommes politiques peuvent être assimilés à des rockstars? Parce que c'était des rockstars à l'époque.
Oui, puis, vous voyez, De Gaulle, déjà, c'est vrai, c'était quand, moi, la première fois que je l'ai vu, la conférence de presse de septembre 68, quand il est arrivé dans cette salle, d'abord on entrait dans l'Élysée en marchant comme dans une cathédrale, sur les pieds, vous voyez, comme si, en murmurant, en ayant peur de parler. Et quand il arrivait derrière le rideau, on voyait quand même un physique gothique, vous voyez, une espèce de grande silhouette, une tête un peu petite. C'était Pompidou qui avait dit de lui, il n'appartenait pas au monde des humains, vous voyez, donc il y avait ça, donc il y avait... C'était une grande figure, mais Pompidou aussi, parce que Pompidou, c'était un premier ministre qui était tout à fait l'accompagnateur de Gaulle, en ce sens que lui savait que si le général voulait avoir cette vision universaliste, parler de la France dans le monde, de sa place, il savait que pour pouvoir accompagner cette vision, il fallait que la France tienne son rang, soit une grande puissance économique, donc il n'avait qu'une idée, c'était l'industrialisation. Il disait au fond que la plus grande révolution, c'était de donner aux ouvriers un travail et qu'il soit bien payé. qu'il soit bien payé. Ça, il insistait sur le fait, voilà. Et donc, moi, je trouvais que ça me convenait. C'était pas de travailler moins, vous voyez. C'était d'être bien payé pour leur travail.
Alors, en 1975, tu entres à Europe 1, où tu es toujours. Tu suis la droite parlementaire française. Tu changes pas tellement, finalement, de bocal d'observation. Tu deviens une de ces analystes les plus avertis au travers de tes éditoriaux, de tes livres. Hein, finalement, c'est arrivé tôt, tout ça, chez toi. Et avec la double méprise, tu campes la rivalité du couple Chirac-Giscard qui a marqué notre histoire récente. Alors, comment qualifies-tu ce duo infernal? C'était un duo infernal.
Ça a été un duo infernal parce que la double méprise, ils se sont mépris l'un sur l'autre. Chirac a été le secrétaire d'État de Giscard lorsqu'il était ministre des Finances, avant d'être président de la République, avant de succéder à Georges Pompidou. Et il était un secrétaire d'État tout à fait obséquieux, obéissant avec Giscard, et il menait la vie dure aux députés UDR, les gaullistes de l'époque, en refusant leurs amendements au nom de l'orthodoxie budgétaire, il leur faisait un train d'enfer, il était détesté. Donc Giscard a cru qu'il serait un tireur de parquet, voilà, et que comme il avait été très, d'ailleurs c'était Pasqua qui disait ça, que Giscard a cru que Chirac serait un tireur de parquet, parce qu'il avait constaté combien il était déférent et pompidolien, il s'est dit une fois que je serai président, il sera pareil avec moi, il l'a cru, bon. Et Chirac, lui, est devenu, ne voulait pas être Premier ministre, il aurait préféré être aux finances. Et puis, Marie-France Garraud, Pierre Juillet lui ont dit que c'était une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Mais très vite, il a vu quand même que Giscard le traitait comme un valet, c'est-à-dire il a pu choisir 3 ministres sur son gouvernement. Et qui choisissait les ministres? C'était Ponia, Gigi SS, Jean-Jacques Servan-Schreiber et Giscard, hein, pour le premier gouvernement.
Poniatowski.
Qui était l'homme lige et le ministre de l'Intérieur.
Valérie Giscard d'Estaing.
Bon, Pasqua a dit à Chirac, écoute, là, tu es maltraité par Giscard, il faut que tu reprennes les choses en main. Et puis, vraiment, ils ont fait un tour de passe-passe. Mais, en tout cas, Chirac, grâce à Pasqua, est devenu le patron du parti gaulliste. Alors, contre les barons. Alors, voilà. Et que ça leur est passé sous le nez, qu'ils n'ont rien vu venir. Voilà.
Giscard a quand même été novateur aussi, sur le plan de, je dirais, de la personnalité politique. Il a, tu le dis d'ailleurs et tu le décris très bien dans ton livre, il a fait irruption avec le corps.
Oui, mais c'est-à-dire que plus il a inventé la communication avec le corps. Le corps a fait irruption dans sa communication. Pourquoi? Parce que
c'est important de le dire. Je sais
pourquoi.
Ce que tu vas dire.
Parce que Georges Pompidou est très vite tombé malade. Et les images étaient affligeantes de voir cet homme qui souffrait, qui avait le visage très gonflé par la cortisone, qui au Conseil des ministres avait un caractère difficile. Je dirais qu'il avait mal au caractère parce qu'il souffrait. Et puis c'est pas agréable de savoir que peut-être, même s'il n'en croyait rien, il ne savait pas très bien quelle maladie il avait, mais il sentait bien que ses forces l'abandonnaient. Et donc, il donnait une image d'un président qui était quand même pas chatoyante pour les Français. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, Giscard, qui ne parlait pas de succession, faisait comme si Georges Pompidou terminerait son mandat, travailler en douce à inscrire sa mythologie et montrer qu'il était différent des autres. Alors, d'abord plus intelligent. Plus intelligent.
Plus sportif.
Plus intelligent, c'est-à-dire qu'il laissait traîner. Il laissait traîner un manuel de chinois dans sa voiture pour montrer qu'il apprenait le chinois. Donc ça, c'était assez agaçant, mais surtout, dès qu'il avait l'occasion de se montrer, soit à Chamalières faisant un match de foot avec les commerçants de Chamalières, il se montrait courant mal, d'ailleurs, faisant du ski.
Tu écris qu'il courait comme une girafe.
Comme une girafe. Et quand on voit les images aujourd'hui, on se dit qu'il est un peu ridicule, ça c'est vrai. Ou alors faisant du ski en gilet et cravate. Et
Mais toujours en très bonne santé.
Toujours en très bonne santé pour lui. Pour, et puis quelquefois torse nu dans
par
les trucs.
Par contraste avec l'image.
Voilà, par l'image. Voilà. Et une fois qu'il a été élu, on l'a vu en maillot de bain, un petit maillot de bain sur la plage. On sentait que c'était un homme qui se plaisait en sa compagnie. Quoi. Il disait, regardez, et qui plaisait, voilà, qui plaisait aux femmes, sûrement, j'imagine. Oui. Mais moi, je trouvais très agaçant parce que par cette multiplication de gadgets quand il est arrivé, alors qu'il a été un grand réformateur, notamment européenne et tout ça, mais changer le rythme de la Marseillaise, vous voyez, ça était devenu une valse triste, vous voyez, il avait enlevé les trompettes, c'était qui avait été reconduite à la frontière, les militaires n'étaient pas contents. Vous voyez, c'était des choses subalternes, il avait changé, il y avait eu Boulevard Beaumarchais, le premier défilé du 14 juillet, vous voyez, c'était des choses anecdotiques, voilà. Oui. Et puis quand il a pris le pouvoir, son discours d'investiture, il a oublié de citer De Gaulle et Pompidou. Et moi, j'avais trouvé ça mesquin.
Alors, on va voir dans quelques instants que, en tout cas, moi, j'ai noté chez toi une prédilection pour l'étude des grandes rivalités qui jalonnent la vie de la droite. On va le voir dans quelques instants.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, je disais que j'ai noté chez toi une prédilection pour l'étude des grandes rivalités qui jalonnent la vie de la droite, Chirac-Giscard, Chirac-Balladur, dans Le Dauphin et le Régent, excellent livre là aussi, ou Sarkozy et Villepin, dans Tes Mémoires, sans oublier évidemment De Gaulle et Pompidou, dans un documentaire pour France 3. Est-ce que les couples politiques fonctionnent comme les couples amoureux avec leur lot de passion, de trahison et de rupture, ou est-ce qu'ils obéissent à une autre logique ?
Dans l'histoire des couples, c'est vrai que De Gaulle, qui ne supportait plus Debré au bout de 3 ans parce qu'il était anxieux et qu'il disait tout ce pauvre Debré toujours devant les murs de lamentation, il n'en pouvait plus. Il avait choisi Georges Pompidou, qui a été son confident pendant de longues années, qui est entré à son cabinet en 44. Puis, comme il n'était pas résistant, il n'attendait rien de De Gaulle. Et De Gaulle, il n'avait pas cette pression de ceux qui avaient été à Londres, qui disaient, mon général, vous nous devez bien ça, un poste ou quelque chose comme ça. Et ça le délivrait, au fond, d'avoir un homme qui n'attendait rien de lui et qui était aussi précieux, drôle, dont il moquait le nom, il était Pompidou, mais on dirait un nom de coureur cycliste, enfin voilà. Et donc, je crois que ce sont deux hommes qui se sont aimés. Je crois que le général de Gaulle a aimé Georges Pompidou, mais après, quand il a démissionné en 46, après il y a eu le retour à Colombey, l'échec de la création du RPF, et là, Pompidou a compris que il en avait marre aussi d'être convoqué par De Gaulle pour aller à Colombey en voiture. Vous voyez, l'état des routes à l'époque, c'était, il revenait, puis l'entendre soliloquer. Et c'était le moment des jours de Gaulle sans grandeur, quoi. Et donc, il en a eu assez. Et surtout, il ne croyait plus au retour du général de Gaulle. Donc, il s'est séparé de lui parce qu'il avait cette proposition à la Banque Rothschild, mais en s'engageant, disant, mon général, si vous aviez besoin de moi un jour, je reviendrai. Et il faut bien dire qu'il n'a rien fait pour... il n'a pas du tout conspiré au retour du général. C'était Guichard, c'était Roger Frey, qu'il fallait bien
c'était
régler...
C'était
les barons, et lui, il n'en avait pas fait part. Il avait même dit, vous êtes fous, il ne reviendra jamais. Vous voyez, il leur avait dit au moment où il savait qu'ils essayaient de faire revenir le général. Donc, il a fait venir de Pompidou pendant 6 mois comme directeur de cabinet lorsqu'il était président du Conseil en 58. Et c'est vrai, c'est Pompidou qui a été le maître de tout. Et vous voyez, dans ses mémoires, Debré le dit, il était le maître, c'est lui qui a eu l'idée du Nouveau France, c'est lui qui a supprimé certaines pensions. Mais les gens ont eu confiance et en 6 mois, déjà, la France redémarrait. La France redémarrait et c'est pour ça que lorsque le général a été élu en janvier, il a fait ce cadeau à Georges Pompidou de l'avoir dans sa voiture à ses côtés lorsqu'il a remonté les Champs-Élysées. Mais Pompidou est revenu à la Banque Rothschild et il a compris que le virus de la politique l'avait atteint et il avait envie d'être Premier ministre. Donc, ils ont formé, De Gaulle et lui, un tandem formidable, mais qui s'est altéré, comme les choses, parce que, d'abord, De Gaulle supportait pas d'avoir été mis en ballotage, il y avait des tensions économiques entre les deux. Et 68 a été, et c'est Pompidou qui a quand même tenu la maison, enfin j'en vais pas refaire l'histoire de tout ça, mais Pompidou s'est séparé de lui. Et là, il a été très vexé. Voilà. Et on peut dire que ce couple-là, c'est à cause de l'affaire Markovitch, enfin, pour eux, oui. On ne va pas faire l'état, mais non. Ils se sont séparés dans la douleur.
Oui,
vous voyez
c'est vrai.
Donc, un couple, c'était sans doute celui qui avait eu le compagnonnage le plus long, l'admiration la plus totale et sincère, l'affection, et qui, ils ont fini par se détester l'un l'autre. Vous voyez, De Gaulle et Pompidou. Qui étaient quand même des hommes, voilà. Et je crois que le ressentiment, l'acrimonie étaient des deux côtés. Et je pense que ça, c'est inévitable.
D'ailleurs, quand le général décède à Colombey, Madame de Gaulle fait couvrir le cercueil juste avant l'arrivée de Georges Pompidou.
Oui, oui.
Et ça a marqué oui, oui. Justement cette séparation qui s'était étendue à la famille du général aussi. Alors, comment expliques-tu que la droite n'ait fonctionné depuis 40 ans que dans ces grandes rivalités qui ont produit quelques victoires, mais beaucoup de divisions, et au final, son éclatement ?
Je crois que Jacques Chirac a eu tort de se présenter en 81, mais Debray aussi était candidat. Il y avait tout le monde, Marie-France Garraud, tout le monde.
Ils ont affaibli Giscard.
Ils ont affaibli Giscard. Giscard a été battu. Donc ça, quand même, pour l'électorat de droite, il a quand même mis du temps avant de revenir. Hein. La route a été longue. Bon, ensuite, quand Giscard a été battu, est entré en scène Édouard Balladur, qui avait connu Jacques Chirac chez Georges Pompidou. Lui, il était le conseiller social. C'était un voilà.
On va y arriver.
Ouais.
Auparavant, je voudrais rappeler quand même que tu t'es faite biographe avec des immenses, il faut le dire, immenses succès de librairie, comme tout d'abord Le Noir et le Rouge, consacré à François Mitterrand. On vient de parler de De Gaulle, de Pompidou, mais François Mitterrand a une place aussi à part et importante. Et tu fais ce livre. Et dans les recherches que j'ai menées en vue de cette émission, j'ai lu que tu avais avec lui quelques similitudes. Jeunesse provinciale, éducation catholique, voisinage de la Charente et de la Dordogne, lui de la Charente, toi de la Dordogne, attrait pour les multiples facettes du pouvoir. Est-ce que ce parallélisme qui t'a conduit à mettre ta vie professionnelle entre parenthèses pour écrire ce livre, parce que tu as cessé justement d'être journaliste pour faire une enquête de fond sur Mitterrand pendant...
Mais non, mais c'est pas parce que j'ai vécu en Dordogne et lui en Charente que j'ai fait ce livre. Bon,
non, similitudes.
Il y a des similitudes, mais bon, peut-être que j'ai mieux compris son milieu familial. Mais quand il a été élu, comme moi je ne le connaissais pas, puisque j'avais surtout, je m'étais occupée des gaullistes et je connaissais pas les socialistes. Mais ce que je voyais, c'était ce personnage qui arrivait toujours avec cet œil bizarre, ce regard scrutateur et puis un peu fuyant, enfin un Florentin, un personnage Florentin, mais qui régnait sur les socialistes, avec un phénomène de cour. Je me souviens Attali qui était courbé devant lui, enfin tout ça. Et je me suis dit, je ne veux pas vivre pendant 7 ans avec un homme que je ne connais pas. Bon, et c'est surtout, vous voyez, là, il y a la, au moment où il a, en 82, où il a réuni les grands de ce monde à Versailles, où il y avait ce ballet d'hélicoptères qui emmenait Madame Thatcher, Reagan, tout ça, tous les gens, et les recevoir, faire ce grand banquet dans la Galerie des Glaces avec des ministres communistes. Alors, je me suis dit, là, c'était vraiment, vous voyez, eux qui dénonçaient le pouvoir personnel, les riches, les machins. Je me suis dit, là, il y a plein de contradictions dans le personnage. Je veux en savoir plus. Et j'ai pris une année sabbatique. J'ai cru que je pourrais faire le livre en un an. Et puis finalement, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 années sabbatiques à faire l'enquête, à repartir, à voir, savoir d'où il venait, les études, la Charente. J'ai découvert que...
Mais tu es allé loin d'ailleurs dans l'étude du personnage.
Ben, je suis allé loin, je suis allé en Charente.
Non, mais pas...
Non, mais je suis allé voir, vous voyez,
non,
jusqu'à...
Non, tu es pas allé en Charente, tu es allé dans son enfance aussi.
Eh bien oui, en Charente.
C'est ça que je veux dire.
Oui, oui. Et où il était... Quand j'ai raconté dans le livre que c'était des curés qui venaient à la maison pour faire les classes jusqu'à temps qu'ils rentrent au collège à Angoulême, je me souviens Poprenne qui était un laïcard, là ça l'avait. Là, mais il était, mais...
Claude Poprenne.
Oui. Ah, ça l'avait rendu... Alors ça, c'était la chose qui l'avait le plus bouleversé. Donc c'était ce milieu-là d'un enfant qui était élevé dans avec un grand-père très industrieux, qui parlait anglais, qui avait une vinaigrerie. Mais évidemment, dans ce petit milieu de Charente, vous voyez, dans ce, à Jarnac, où il y avait à la fois les vignes de ceux qui faisaient du cognac, et puis pas loin, Limoges avec la porcelaine, et les gens du cognac épousaient les gens de la porcelaine. Donc, dans ce milieu-là, évidemment, les Mitterrand qui avaient la vinaigrerie, le père de Mitterrand qui avait été cheminot, disait-il, en fait, il était chef de gare, ce qui était déjà une... Bon, et qui avait l'air quand même d'un bourgeois à chapeauter. Donc, pour les gens du bas... Les Mitterrand, c'était la haute, mais pour les gens du cognac, c'était des gens plus bas. Donc, je crois que ce microcosme a fait découvrir, avant la lutte des classes à Mitterrand, c'est ce qu'était la lutte des castes. Voyez, et on ne se fréquentait pas entre les gens de la haute et les gens du milieu. Et je pense qu'il a senti ce mépris-là. Et qui, après, eh bien, lui a fait devenir le champion de lutter contre la lutte des classes.
Alors, qu'est-ce que Mitterrand avait en plus et qui explique le charme envoûtant qu'il exerçait sur la plupart de ceux qui le rencontraient? Tu vas répondre après ce nouvel entracte.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, je te demandais qu'est-ce que Mitterrand avait en plus et qui explique le charme envoûtant qu'il exerçait sur la plupart de ceux qui le rencontraient. Parce qu'en plus, tu as fait deux livres sur Mitterrand,
oui,
d'ailleurs.
Oui, oui.
Tu as fait Le Noir et Le Rouge et Les Sept Mitterrand.
Oui, ben, Mitterrand, c'est quelqu'un, je crois que c'est un de ses frères qui disait qu'il est né monarque. C'est-à-dire qu'il était dans une fratrie de 8 ou 9, je ne sais plus, bon, et son frère aîné, qui était polytechnicien, qui avait fait de meilleur, était à son service. C'est-à-dire qu'il s'imposait. Il n'obéissait pas à sa grand-mère, enfin, comme disait une de ses tantes, ses idées lui tenaient lieu de loi. Donc il avait déjà l'idée qu'il devait régner et qu'il menait sa vie à sa guise comme il le voulait. Après, il est allé faire ses études à Paris, il y a eu la guerre, il a été fait prisonnier en Allemagne, et quand il était prisonnier en Allemagne, avec ses amis du Stalag, il avait déjà l'idée de faire de la politique. Voilà. Et donc, qu'il faudrait se venger de ces gens de la Troisième qui avaient mis voilà, cette France dans la panade, et qu'il faudrait... Il avait cette vocation-là d'être un leader, en tous les cas de faire de la politique. Et puis, sous la Quatrième, il a commencé de la politique à droite, parce qu'il s'est fait élire dans la Nièvre en étant patronné par le marquis de Roale, avec une profession de foi, non-nationalisation. Enfin, il était très anticommuniste à l'époque, pas question de fréquenter ces gens-là. Mais tout de suite, il a compris que s'il voulait peser sous la Quatrième, où il y avait cette multitude de partis, il fallait qu'il ait le sien. Et donc, il s'est inscrit à l'UDSR, qui était un petit parti charnière, où ils étaient une minorité, une vingtaine, j'ai oublié le nom, mais où il pesait toujours... Quand il fallait un appoint dans les gouvernements, quels qu'ils soient, hein, ou de droite ou de gauche, on avait toujours besoin d'un UDSR. Et donc, il a pris le parti. Un jour, il est devenu le patron de l'UDSR. Et la façon, d'ailleurs, dont il est devenu le parti, alors qu'il n'était pas grand-chose, c'était une préfiguration de ce qu'il ferait plus tard sur le Parti Socialiste, cette OPA sur le Parti Socialiste. Donc, il a été un ministre, il a été 11 fois... ministre sous la 4e République, et il avait qu'une ambition, c'est être président du Conseil. Mais sauf que s'il avait enfin réussi à être président du Conseil, et il a toujours raconté que au moment 58, où c'était presque fait, il l'aurait été, il ne l'a pas été. Bon. Mais s'il avait été président du Conseil, il serait resté dans les livres d'histoire comme président du Conseil, et il n'aurait pas existé. Et la chance de Mitterrand, ça a été De Gaulle, son ennemi. Son ennemi déclaré, qu'il déclarait c'était un dictateur, la dictature à l'âme, avec son air bonasse, disait-il. Il était persuadé que, voilà, qu'il allait imposer une dictature à la France. Et il ne s'est jamais entendu avec lui. Mais il a très vite, bien qu'ayant voté contre la réforme du vote contre l'élection du président au suffrage universel, il a voté contre, mais en sachant, lui, contrairement à Madès, qu'un jour ça lui servirait. Et que cette élection-là, eh bien, il finirait par l'emporter, et que c'est des institutions qui lui seraient profitables.
Alors comment a-t-il réagi, quand je dis il, c'est-à-dire François, oui, Mitterrand, au Noir et le Rouge, à ton livre? Et quel est le souvenir que tu gardes encore de l'entretien que tu as eu avec lui pour préparer l'ouvrage?
En réalité, moi, je ne voulais pas le voir. Parce que je me disais, un homme qui est passé par tellement de méandres, sa vie a été tellement hasard que j'allais pas lui demander qui êtes-vous, d'où venez-vous. Bon, et moi, ce que je voulais, c'est faire un livre en le regardant dans le regard des autres. Et à l'époque, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai commencé ce livre en 82, ses contemporains vivaient toujours. Moi, j'avais au départ, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Mais ce qui est formidable quand on commence à faire une enquête, c'est que si on connaît une personne, on en connaît deux, on tire une ficelle et on trouve tout le monde. Donc, j'ai pu avancer comme ça et me faire une idée de lui. Alors, j'avais vu sa famille et sa famille lui avait dit que je faisais un livre sur lui, donc il m'avait demandé de venir à l'Élysée. Donc,
tu n'as pas été envoûtée par cet entretien, cette entrevue?
Alors oui, non, j'ai d'autant pas été du tout envoûtée par Mitterrand, parce qu'en plus il m'a dit, puis ce livre au fond vous le finirez pas. Mais j'ai trouvé que c'était tellement... Il me méprisait, là. Moi, je me suis dit, tu vas voir si je ne vais pas terminer.
Mais... Et je dois dire que tu en as vendu un nombre.
Oui, mais je vais vous dire, moi, quand j'ai commencé ce livre, je ne me suis pas dit, qu'est-ce que je vais faire un livre pour dégommer Mitterrand. Moi, j'ai fait, entre guillemets, je mets des guillemets, j'ai voulu faire une œuvre d'historienne. Oui, et c'était une enquête, mais formidable. Non, mais moi, j'ai adoré, m'extraire de tout et ne penser qu'à ça.
Bon. Quitter Europe 1 pendant 2 ans.
Quitter Europe, voilà, oui. Et surtout quand à l'Europe, ça n'allait pas trop bien parce que les socialistes imposaient leur... tu en sais quelque chose, voilà. Et, beaucoup de gens étaient partis parce qu'ils voulaient transformer une radio qui était de centre-droit et CSP++ en radio de gauche. Bon, donc ça allait... Donc, c'est d'ailleurs un livre que je pense être objectif, parce que j'ai sorti des choses qui sont maintenant reconnues, quoi.
Enfin, il a été réélu.
Oui.
Il est resté au pouvoir 14 ans.
Oui.
Et
oui, en 10 ans, lorsqu'il a été élu, enfin lorsqu'il était dans l'opposition, il disait ces institutions, il faut les changer, elles sont trop dangereuses. Et alors on lui dit, et ça d'ailleurs, Jacques Lang lui avait reproché de ne pas les avoir changées, mais il avait dit, tant que je suis là, c'est pas dangereux. Donc il se fichait de ce qui viendrait après lui, quoi. Non, il en a profité, il s'est coulé dans ces institutions de monarchie. Moi je me souviens, par exemple, le premier 14 juillet, alors qu'il n'avait jamais voté un budget militaire, qu'il était contre la force nucléaire et qu'il a dit la dissuasion, c'est moi. Mais je me suis dit, mais quel culot, quoi. Il était incroyable, quoi.
Oui.
Voilà. Mais il avait comme
il
ça.
Avait raison,
il avait raison.
La dissuasion, c'est le chef de l'État.
Mais oui, d'accord. Mais enfin, après un parcours où il avait dit non à tout, vous voyez.
Bien sûr.
Donc je me disais, il manque pas d'air, quoi. Mais à la fois, il avait quand même une majesté, ce fluide de l'autorité, qui n'est pas donné à tout le monde, dans le général de Gaulle parler, qui est quand on est un chef, qui fait que quand on parle, on vous écoute, et qui avait quand même une supériorité intellectuelle, une façon de maîtriser les choses que je trouve encore, qui existe encore. Et je veux dire, il n'a pas été remplacé à gauche. Hein. Avec aussi des... Je pense que la maladie a fait que son deuxième septennat était un peu un septennat pour rien.
Alors, Catherine, on arrive à la fin de ce premier épisode, cette première heure qui illustre parfaitement tes deux livres à succès. Souvenir, et tu sais bien, le temps passe. Et on va amorcer le deuxième épisode. On va tourner vraiment complètement la page. François Mitterrand, c'est fini. Et de dire, d'évoquer et d'analyser ce que tu as fait ensuite, plusieurs ouvrages qui ont été consacrés à Nicolas Sarkozy et aux tourments que les aléas de sa vie privée ont causé à sa vie publique, notamment pendant et après l'élection de 2007. Alors, on va l'amorcer, on ne va pas le finir, puisque ça va être à la suite dans un deuxième épisode. Nicolas Sarkozy, c'est la question que je te pose, est-il l'homme politique le plus sensible aux émotions que tu as connues, le plus sujet à l'affect des grands fauves de l'arène politique?
Ce que je considère d'abord, c'est que Nicolas Sarkozy a un parcours singulier, parce qu'il est celui qui a commencé le plus bas, c'est-à-dire à la permanence gaulliste de Neuilly, en y venant en 74, à l'été 74, quand Giscard était élu. Et donc, c'est peu dire qu'il est arrivé à cette permanence où il y avait deux personnages qui ont vu arriver un jeune. Ça ne devait pas arriver tous les jours. Et dès qu'il est entré dans cette permanence, il s'est dit « je deviendrai le patron, je les aurai bientôt ». Bon. Et donc, il a milité, il s'est fait connaître. Moi, je l'ai vu débuter en 75 aux Assises de Nice. C'était Pasqua qui lui avait dit, comme jeune militant, de « c'est toi qui parleras ». Et je l'ai vu monter à la tribune. Et alors, surtout, il intervenait à un moment le plus difficile. C'était après un discours de Debré qui parlait pendant une heure, amis, compagnons, enfin. Et après ça, les militants avaient besoin de souffler, d'aller boire une bière, parce que trop de mots dans la tête. Et donc, il partait, les militants étaient en train de partir. Et moi, j'ai vu monter un jeune homme aux cheveux longs, qui est arrivé, une voix de Saint-Or, et les gens se sont rassis. Parce qu'il leur a dit, j'ai la tête dans les étoiles, je réalise mon rêve. Et il s'est adressé au baron en disant, mais j'ai compris, voilà, j'ai compris, je suis gaulliste comme vous, parce que je sais que De Gaulle, c'est un révolutionnaire et vous êtes des révolutionnaires. Il a été applaudi. Achille Peretti, le maire de Neuilly, qui a été élu et réélu 7 fois de suite, entend ce jeune qui est trop formidable, il dit qui c'est, on dit, mais il vient de chez nous. Donc il dit, mais appelez-le. Et donc il lui dit, la prochaine fois, tu seras dans mon conseil
municipal.
Et la fois d'après, c'était 3 ans après, ou 2 ans même après, Nicolas Sarkozy, qui est toujours à la permanence de Neuilly, fait venir des jeunes, leur dit, mes enfants, je vais vous faire une grande fête, venez nombreux, parce qu'il y a une grande vedette qui va arriver. En fait, il faisait venir, il se rappelait au bon souvenir de Peretti, qui a été ovationné par des jeunes, et qui a dit, eh ben voilà, et donc il était 37e sur la liste. Et puis, 6 ans après, il était 7e. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Peretti décède un mois après son élection.
Achille Peretti. N'était pas n'importe qui a été un grand résistant, fameux chef du réseau Ajax, durant la libération de Paris, etc.
Voilà. Et il meurt alors qu'il était jusque-là, croyait-on, en bonne santé. Et donc, l'élection devait, le nouveau maire devait être choisi dans le conseil municipal. Or, 3 mois avant l'élection, Charles Pasqua, qui avait déménagé, était venu à Neuilly, avait demandé à faire partie du conseil municipal. Ce qui avait été très mal vu des conseillers municipaux qui étaient depuis longtemps avec Achille en se disant c'est lui qui va vouloir être successeur. Et donc ils en avaient, ils n'étaient pas contents, mais Peretti leur disait mais moi je ne suis pas le prince de Monaco, il n'y a pas de. Voilà, bon, je ne vais pas. Et donc Pasqua a chargé Nicolas Sarkozy de faire campagne pour lui. Et il s'est aperçu que les conseillers ne voulaient pas. De Pasqua. Donc il s'est dit, ben pourquoi pas pour moi. Et il a fait une campagne.
C'est Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy a fait campagne et il s'est aperçu qu'il avait. Voilà. Donc Chirac a tout fait pour l'en empêcher, lui a envoyé Bernard Pons, le secrétaire général du RPR, pour dire, mais écoute, n'y va pas. Il dit, mais non, moi j'irai. Et il a été élu maire contre l'avis de Jacques Chirac.
C'est-à-dire, il a soufflé la place de Charles Pasqua, qui se destinait à être le maire de Neuilly.
Bah, qui aurait voulu.
Fallait le faire quand même.
Fallait le faire, mais sauf que lui, il était connu de tout Neuilly déjà. Il s'occupait des écoles, allait voir les gens. Enfin, il était déjà une personnalité à Neuilly, Nicolas Sarkozy. Ce que n'était pas Charles Pasqua qui venait d'habiter à Neuilly. Donc, Chirac n'a pu rien faire. Comme 2 ans plus tard, il avait promis le siège à Florence Darcourt et Nicolas Sarkozy est venu le voir en disant, écoute, moi je démissionne parce que je serai candidat et je ne veux pas vous gêner, mais moi je serai candidat. Chirac, il l'a mis au pas et il a été élu député contre l'avis de Jacques Chirac.
Et c'est le début de la carrière de Nicolas Sarkozy.
Voilà, c'est le début de la carrière de Nicolas Sarkozy. Après le succès de... Chirac a vu que c'était quelqu'un de hors norme qui apportait des idées et il se servait de lui.
Eh bien, c'est ce qu'on va analyser, raconter dans le deuxième épisode, dans la deuxième heure que nous allons consacrer aux coulisses de la vie politique. Merci Catherine.
Merci.
Dimanche prochain, 31 juillet, on retrouvera Catherine Ney et nous continuerons avec elle à nous immerger dans la galerie des grandes figures de la Ve République. Passez un bon été à l'écoute d'Europe 1.
Les grands entretiens sur Europe 1.